Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir noté ce nouveau numéro de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, nous allons modestement rendre hommage à Jean Tellet que nous avions rencontré à Dijon, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne en avril 2011. L'émission que vous allez entendre a été diffusée une première fois sur Radion le 18 mai 2011. Jean Tellet nous a effectivement quitté le 18 octobre dernier dans sa 69e année. C'était un homme aux multiples facettes. Il a débuté par la bande dessinée avant de se lancer dans l'univers du petit écran aux côtés de Bernard Rapp dans L'Assiette anglaise sur Antenne 2 puis sur Canal+ dans Nulle part ailleurs. Mais c'est bel et bien l'écriture qu'il préfère. Il a commencé à publier des romans comme Rainbow pour Rimbaud en 91 qu'il adaptera au cinéma, Darling en 98 et on peut mentionner Le magasin des suicides en 2007. Et on mentionnera aussi un très grand succès qu'il a remporté en librairie avec un roman historique, drôle, salué par la critique, et qui a pour titre Le Montespan. Alors, en avril 2011, lorsque je rencontre Jean Tellet au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon, dans le cadre du Club des écrivains de Bourgogne, il vient de faire paraître aux éditions Julliard Charlie IX. Charlie IX, c'est un roman historique, dans lequel Jean Tellet choisit de revenir sur Charles IX, qui fut, de tous nos monarques, l'un des plus calamiteux. À 22 ans, Charles IX, pour faire plaisir à Catherine de Médicis, sa mère, ordonne le massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572, massacre d'ailleurs qui épouvanta l'Europe entière. Abasourdi par l'énormité de son crime, ce jeune homme sombra dans la folie. Et d'ailleurs, il courait le lapin et le cerf dans les corridors et les salles du palais du Louvre, fabriquant de la fausse monnaie pour remplir les caisses désespérément vides du royaume. Et il a accumulé ainsi des initiatives véritablement désastreuses. Transpirant le sang de tous les pores de son pauvre corps décharné, Charles IX mourut à 23 ans, haï de tous. Pourtant, il était un gentil garçon, à peine sorti de l'adolescence. Revenons donc avec Jean Tellet sur ce monarque qui, effectivement, n'a pas forcément laissé de très bons souvenirs dans l'histoire de notre pays. Jean Tellet qui, bien sûr, a sculpté un roman dans l'histoire et autour du règne de Charles IX, et pourtant, tout est vrai. Jean Tellet.
Tous les faits sont vrais. Tous les faits sont vrais et alors c'est mis en forme de roman et en forme de roman à ma manière. Et mais tous les faits sont vrais. Et il faut parce que autrement ça n'aurait pas de sens. Quoi.
Mais alors on peut s'interroger tout de même sur ce titre Charlie IX qui évidemment renvoie à une sorte de clin d'œil, un anachronisme, une sorte d'amusement avec l'histoire. Bon, tout écrivain peut faire des enfants à l'histoire et un petit peu, j'allais dire, vulgairement, baiser l'histoire à sa manière, si les auditrices et auditeurs me permettent cette liberté de langage. Et Dieu sait si vous, Jean Tellet, dans ce roman, vous vous permettez, à mon avis, bien des excès langagiers et beaucoup de fantaisie au niveau du vocabulaire. Les jurons, par exemple, nous de Zeus.
Ah, les jurons sont... tout le monde croit que c'est moi qui les ai inventés. Ce sont les vrais jurons que lançait Charles IX. Alors, après, la Saint-Barthélemy s'est mis à jurer, mais à dire des jurons mais qui choquaient
tellement. Blasphématoire.
Mais oui, il gueulait des trucs comme par la chiasse de la Vierge, par les couilles du Christ, par la mort morphes de dieux, des trucs absolument énormes. Et d'ailleurs, quand il sortait, il ne donnait une pièce à un mendiant que s'il jurait devant lui. Et le roi, et ça foutait un désordre au Louvre, parce que le roi de France, fille aînée de l'Église, qui passe son temps à jurer, c'était absolument incroyable. Mais tous ces jurons sont pas de moi, sont de lui.
Alors j'en ai relevé d'autres, hein. Gentelet, 1000 pines de Dieu bouffées par le chancre, île de pute Macarel et 1000 pines du tonnerre de Dieu. Ouais. Et alors il y en a une, c'est pute bonne de trou du cul du Tout-Puissant. Mais dites donc, voilà. Dans les cours de récréation, peut-être que ça va pouvoir renouveler. On va pouvoir renouveler. Gentelet, est-ce que vous voulez nous lire les toutes premières lignes de votre roman, s'il vous plaît, pour les auditeurs de Radion ? Un grand merci à vous, s'il vous plaît.
Alors, un mort, un gentil garçon, semblant à peine sorti de l'adolescence, il vient d'avoir 22 ans, écarquille ses grands yeux. Quoi ? Vouloir que j'ordonne pour cette nuit l'assassinat d'un convalescent surpris en plein sommeil ? Mais vous n'y pensez pas, ma mère. Et puis quel homme, l'amiral de Coligny que j'appelle mon père ? Jamais je ne scellerai cet édit. Tout loyal, franc, ouvert du cœur et de la bouche, le garçon à haute fraise blanche, entourant sa gorge jusqu'au menton, s'étonne. Comment pouvez-vous venir me réclamer la mort de mon principal conseiller qui, déjà hier matin, sortant du Louvre, fut arquebusé dans la rue par un tueur caché derrière du linge séchant à une fenêtre ? Il n'est que blessé, Ambroise Paré dit qu'il s'en tira et je m'en réjouis. Pas nous ! Répond une voix de matrone au fort accent italien. D'autant que c'est ton jeune frère et moi qui avions commandité l'attentat. Quoi ? Le garçon, d'un naturel aimable et ayant de bonnes dispositions, n'en revient pas. Sous un bouquet de duvet de cygne à sa toque, il tourne lentement la tête vers les six personnages assis côte à côte devant lui. L'un d'eux, vieux gentilhomme vêtu d'une jupe de damas cramoisi, regrette. Sire, le seigneur de Maurevers, tueur professionnel mais mal habitué aux armes à feu, voulait faire ça à l'arbalète. Pour plus de sûreté, nous lui avons imposé l'arquebuse. Mal nous en a pris. Au moment du tir, Coligny s'est penché pour réajuster sa mule. Maurevers a manqué sa cible. Le jeune roi aux joues arrondies hoche la tête d'un air consterné. Quand je pense que cet après-midi, je suis allé rue de Béthisy au chevet de l'amiral, lui promettre de faire rechercher et punir les coupables, c'était ma mère et mon frère. Mais pourquoi avez-vous décidé ça tous les deux, maman ? Mama, assise juste en face de son rejeton royal, porte autour du cou une immense collerette tuyautée en façon de roue de carrosse. Couverte d'une poudre de riz parfumée, celle-ci enfarine le haut des manches bouillonnées d'une robe noire de veuve. Yeux globuleux et joues molles, les lèvres lipues de la reine remuent, de la reine mère remuent.
Alors, Gentelet, je vous demande pardon, je vous interromps. Ouais. Là, effectivement, on peut dire que c'est le début du roman, bien sûr. C'est le début d'une comédie, tragédie de... C'est pour ça que je dis que votre roman est un monstre littéraire, parce qu'on peut y rire comme on peut effectivement trembler devant la folie de ce 61e roi de France, donc Charles IX, qui avait pour grand-père un roi prestigieux, François Ier. Et finalement, vous racontez l'histoire d'un roi de France qui finalement était un bon garçon et qui va basculer dans la folie parce que il a donné son accord pour ce fameux massacre de la Saint-Barthélemy qui se tient donc en août 1572.
Mais oui, c'était le plus gentil des Valois et c'est lui qui a ordonné le pire crime. Et contre sa volonté, parce que donc le roman démarre le samedi 23 août 1572 vers 9h30 du soir, quand donc Catherine de Médicis, le frère du roi Henri d'Anjou, qui plus tard deviendra Henri III, et le conseil royal arrivent dans son cabinet à Charles IX pour essayer de le convaincre d'ordonner pour la nuit même le massacre surprise de tous les protestants de Paris. Et lui refuse, Abri refuse, il dit « Mais jamais je n'accepterai ça. Je préférerais traîner par les pieds dans la boue des rues de Paris plutôt que de sceller cet édit. On me considérerait pire que Néron, tout ça. » En tout cas, il refuse. C'est comme la chef de M. Seguin. Il lutte. Et à un moment, il craque. Et il dit « Vous voulez qu'on tue les protestants ? Eh ben d'accord. Mais alors, on les tue tous. » Je ne veux jamais voir un visage, jamais entendre une voix qui me reproche ce que je vais ordonner. Et à part, il ordonne quand même qu'on en gracie trois, Ambroise Paré, son
chirurgien,
sa maîtresse, qui était aussi une protestante, Marie Touché, et sa nourrice, qui était aussi une protestante, Madame Portail. Et à part ces trois-là, tous massacrés. Et ça a été un massacre absolument incroyable. Les témoignages racontent que les jours qui ont suivi la Saint-Barthélemy, la Seine était rouge de sang et que les gens pouvaient traverser la Seine à pied en passant d'un corps sur l'autre.
C'est d'ailleurs, vous le racontez, c'est les petits-enfants qui s'amusent à faire cela.
Tous les corps avaient été balancés à la Seine. Et moi, dans ce roman, je raconte donc la veille de la Saint-Barthélemy. Je ne raconte pas la Saint-Barthélemy parce que ça n'est pas racontable.
C'est au chapitre 2, il y a juste la date, dimanche 24 août 1572. Vous auriez pu, avec l'éditeur, peut-être mettre une grosse flaque rouge, puisqu'il y a parfois des petites gravures dans le roman, mais non.
C'était mieux, rien.
Sobriété.
Saint-Barthélemy, rien. Tellement c'est pas racontable. Et je reprends 3-4 jours après, et le roman raconte comment ce roi va se désinguer, se détruire de lui-même et tout, parce qu'il ne va jamais supporter l'énormité de son crime. Il va souffrir du poids de la culpabilité, mais à un point incroyable, tellement qu'il va en mourir de désespoir un an et demi après. Et d'ailleurs, des historiens comme Michelet disent que Charles IX est une des victimes de Saint-Barthélemy, qu'il est mort à Saint-Barthélemy, en fait. C'est ça l'a tué, d'avoir ordonné ce truc-là. Et ça l'a tué et emmené dans des situations complètement cocasses et tout.
Ça l'a fait basculer dans la démence.
Dans la folie complète, oui. Et puis, il est mort d'un drôle de truc à un an et demi plus tard. C'est que tout d'un coup, il s'est mis à avoir des hémorragies cutanées.
Ça, c'est incroyable.
C'est-à-dire que sous la peau, tous ses vaisseaux sanguins ont éclaté. Et c'est une véritable maladie qui s'appelle l'hématidrose. Et c'est provoqué qu'on est dans un état de stress absolument incroyable. Et donc, sous la peau, les vaisseaux sanguins ont éclaté. Et le sang donc passait par les pores de la peau. Et nuit et jour, il ruisselait de sang. Et il disait, c'est tout le sang que j'ai fait verser qui ressort par mon corps. C'est un cas de somatisation absolument incroyable.
À l'instant, c'était Jean Tellet, enregistré en avril 2011 au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne, où il était venu faire la promotion de son dernier roman paru chez Julliard, Charlie IX. On retrouve Jean Tellet dans quelques minutes, le temps pour nous de marquer un premier intermède musical. Je vous rappelle que c'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion pour rendre hommage au romancier Jean Tellet qui nous a quittés le 18 octobre dernier.
On voyait balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là. On voyait balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là. Si les gens sont tristes, j'en mourrai, j'oublie que tu existes. C'est fini, sur la piste je twiste. Dans la nuit, il y a du monde, je me faufile avec style. Me regarde dans le miroir, je me noie dans mes yeux. Rigoler des déboires, j'en referai des envieux. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala. J'ai rêvé tout ce temps ce soir. Je porte bien ma jupe noire dans une armoire, celle bien cachée, celle qu'on n'a pas le droit de vous montrer. Regardez-moi et poussez-vous. Je veux danser, plus rien à foutre. Non, je n'ai plus envie de toi, tu les veux toutes. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là. Danser tout l'été, monter en Impala. Danser tout l'été, monter en Impala.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
En cette fin de matinée sur Radio, nous rendons hommage au romancier Jean Tellet qui nous a quittés le 18 octobre dernier dans sa 69e année et que j'avais rencontré à Dijon au printemps 2011 au moment où il était venu au Club des écrivains de Bourgogne faire la promotion de Charlie IX, alors paru aux éditions Julliard. Un roman historique, un roman aussi sur le mal-être de ce roi de France qu'est le jeune Charles IX, qui était en fait un bon garçon qui dans le roman dit, je le cite, « Une seule nuit a détruit ma vie, qu'à tous les diables soient données les religions. » Cette nuit qui a perturbé et détruit la vie de Charles IX, c'est cette fameuse nuit de la Saint-Barthélemy. Et en fin de compte, j'avais demandé à Jean Tellet, et imaginez bien, l'entretien a lieu en 2011, ce qu'il pensait des excès des religions, quelles qu'elles soient, et Jean Tellet voulait aussi dénoncer les dérives des religions lorsqu'elles devenaient tyranniques, violentes ou guerrières. Jean Tellet.
En tout cas, ce livre sort vraiment au bon moment et je pense que c'est une des raisons de ce succès incroyable qui moi, me surprend. C'est qu'on y retourne en ce moment dans la guerre de religion et on y retourne vraiment. Et là, je voyais la une de l'Express, là, le retour des cathos ultra et tout. Il commence à y avoir des autodafés comme il y a eu à Avignon.
Cette œuvre qui a été
détruite, des catholiques ultra qui font maintenant des défilés dans les rues, et il n'y a pas que les catholiques, hein.
Oui.
Les musulmans ne sont pas plus intelligents, ils sont tout aussi cons quand dans des villes comme le Caire ils foutent le feu aux églises chrétiennes coptes, c'est pas mieux. Et on retourne à cette bêtise absolue qu'on appelle les guerres de religion. Et moi, je dis que tous ces gens-là, en fait, devraient lire Charlie IX pour voir à quel niveau de folie s'entraîne l'humanité, une guerre de religion. Au XVIe siècle, la deuxième partie du XVIe siècle, il y en a eu huit guerres de religion en 50 ans. Et on appelait ça la guerre sans ennemis. D'ailleurs, à un moment, Charles IX dit ça à sa mère. Il dit, mais vous me parlez d'ennemis, mais qui sont ces ennemis? Des Chinois, des Mongols? Quoi? Des Français? Immolé par des Français? Eh ben ouais, on appelait ça aussi la guerre sans ennemis, c'est-à-dire que on n'avait pas besoin que les Allemands, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les je ne sais quoi viennent nous tuer, on se démerdait tout seul entre Français. C'est un truc, toutes les guerres sont abruties évidemment, mais les guerres de religion plus con que ça, c'est pas imaginable.
Vous parlez beaucoup de la mère de Charles IX, Charlie IX, c'est Catherine de Médicis. Alors elle a le mauvais rôle et il semblerait quand même qu'elle ait écrasé ce fils, ce roi. Vous l'écrivez, est un adolescent. Alors la formule m'avait un peu surpris, il est un adolescent prolongé. C'est-à-dire, est-ce que Catherine Médicis et le conseil du roi éprouvent un certain plaisir à maintenir ce jeune roi dans une adolescence, dans un manque de maturité peut-être intellectuelle, dans le but de le dominer et de le duper?
De toute façon, il n'était pas fait pour être roi. Et il n'avait pas la force morale pour ça. Et d'ailleurs, il le disait souvent. Il disait, je ne voulais pas être roi. Je n'étais pas destiné à régner. C'est mon père et mon frère qui sont morts trop tôt. Et lui ne voulait pas être roi. Et d'ailleurs, après Saint-Barthélemy, il disait je ne suis plus un roi, je suis un assassin. Pour le mal que j'ai fait, il convient de me cacher et tout ça. Et quand un an et demi après Saint-Barthélemy, les gens s'inquiétaient de son état de santé, lui il disait il vaudrait mieux pour la France que ma vie fût brève plutôt que longue, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il prenait une décision, c'était une catastrophe. Et c'était en fait un petit gamin de 22 piges perdu dans une époque ultra violente de l'histoire de France auquel il ne comprenait rien.
Oui, dont les enjeux religieux lui échappent totalement.
Il comprenait rien à tout ça, était complètement paumé et tout, et désespéré de vivre à cette époque-là et désespéré d'avoir ordonné un des pires crimes de l'histoire de l'humanité.
Parlons de la mère de Charles IX, de Charlie IX, Catherine de Médicis. Vous parlez d'elle comme d'un, vous l'appelez le venin florentin. Vous l'appelez aussi la magicienne florentine. Elle a une armoire de poisons.
C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Hein.
Certes, et est-ce qu'elle n'a pas aussi empoisonné son fils et la santé mentale?
C'est bien possible. C'est la santé mentale, c'est sûr, et même la santé physique.
Et c'est une mère castratrice et dévorante, puisqu'elle est la mama.
Exactement. Il y a eu de tels doutes à la mort de Charles IX, comme quoi c'était elle qui l'avait fait empoisonner son fils, qu'elle a dû ordonner une autopsie. Ça a été, Charles IX a été le premier roi de France autopsié. Et le rapport d'autopsie, lui, dit qu'il n'y a pas eu empoisonnement. Mais ce que ne dit pas le rapport d'autopsie, c'est que tous les membres qui ont assisté à l'autopsie ont été choisis par Catherine de Médicis. Donc il aurait manqué plus que ça qu'ils disent qu'il avait été empoisonné. Sauf un qui de toute manière était là, c'est Ambroise Paré, en tant que premier chirurgien. De toute façon, il était là. Et quand Ambroise Paré est sorti de la salle d'autopsie et que tous les courtisans dont Brantôme ont fondu sur lui pour lui demander « Alors, de quoi est mort Charles IX ?» Ambroise Paré a répondu « Le roi est mort d'avoir trop soufflé dans son corps de chasse. » Donc autant nous dire qu'il soutient et sauter de la gueule du monde, hein, parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un mourir parce qu'il soufflait trop dans un corps de chasse. Et donc on pense que c'est elle qui... En plus, elle était réputée pour être une empoisonneuse. Il y avait tellement d'empoisonneurs et de mages italiens au Louvre qu'on appelait le Louvre l'égout d'Italie. Et ceci dit, cyniquement, on peut comprendre Catherine de Médicis, parce que ce roi à 23 ans devenait totalement fou. Et donc... et ne prenait que des décisions catastrophiques. Ce qui fait qu'à un moment, Catherine de Médicis a dû se dire « Mais attends, si jamais il vit 80 ans, dans quel état va se trouver la France ?»
Et le royaume va déjà très mal.
Et le royaume allait déjà hyper mal. Donc on peut comprendre que, politiquement, qu'elle se dise « Il faut quand même que ce roi dégage et en mettre un autre derrière. » Et surtout que le fils suivant qui allait devenir roi de France, et ça tombait bien, c'était le fils préféré de Catherine de Médicis.
Celui qu'elle appelle
« Mes chers yeux ».
Et
qui deviendra effectivement Henri III, à qui ça ne va pas bien réussir d'ailleurs, parce que quelques années plus tard, lui va se faire assassiner par un catholique qui s'appelait Clément. Mais c'était une époque complètement folle, où sans foi ni loi et tout. Et quand il y a un petit bonhomme sensible, délicat, comme Charles IX, qui se retrouve balancé dans cette histoire-là, à un poste qui n'est pas du tout le sien,
il n'en sort pas.
Il devient dingue.
Oui. Et vous parlez justement, il y a une réflexion à cette phrase sur les mères, cette question que pose le roi d'ailleurs. Il est dans un sentiment de haine à l'égard de sa mère. Il dit, il se questionne, de quoi faudrait-il remercier les mères? Il envisage même, lui, à un moment, d'éliminer sa mère. Il pense au matricide.
Oui, mais à un moment, il était tellement devenu fou qu'il il ne voulait plus prendre ses repas qu'avec son bourreau, qui s'appelait Jean Roseau, et que lui, Charles IX, appelait mon compère. Et il parlait entre tueurs. Et vous avez tué aujourd'hui, oui, et vous, et tout ça. Et à son bourreau, il disait, en fait, ce que j'aurais voulu, c'est tuer tout mon peuple. Alors ça faisait l'admiration du bourreau. Il disait, alors là, majesté, tout un peuple, quand même, tout. Et Charles IX disait, mon destin est imparfait par le manquement de victimes. Et c'est le bourreau qui le consolait, qui disait, écoutez, manquement de victimes, il y a quand même eu la Saint-Barthélemy, majesté, ça a quand même de la gueule, et tout. Ouais. Et ça devait faire des conversations complètement, complètement incroyables.
Jean Tellet, à l'instant, enregistré en avril 2011, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne, où il était venu présenter Charlie IX, son dernier roman paru aux éditions Julia. Nous lui rendons hommage aujourd'hui, lui qui nous a quittés dans sa 69e année, le 18 octobre dernier. Nous nous retrouvons dans quelques minutes, le temps d'un nouvel intermède musical. Je vous rappelle que c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Sommeil, c'était peut-être un mauvais rêve, mais je voudrais y rester. Y'a comme un truc pas clair, mais pas de quoi s'emballer. On sait tous que j'ai bien mieux à faire. Je vais le faire, ça m'évite les problèmes. J'ai pas envie, c'est toujours les mêmes. Je vais le faire, puis quelque chose me dit. Je vais le faire, ça m'évite les problèmes.
sais plus quoi penser. Je préfère les mystères, bien trop solitaires. Je vais le vivre, ça m'évite les problèmes. J'ai pas envie, c'est toujours les mêmes. Je vais le vivre, plus quelque chose me dit. Qu'on pense, chute libre, laisse-moi le temps, juste avant que l'on force, force, force le silence, pour cacher tout ce qu'on pense, chute libre, laisse-moi le temps, juste avant que l'on force, force, force le silence, pour cacher tout ce qu'on pense, chute libre, laisse-moi le temps.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Je vous propose d'entendre la suite de l'entretien que j'avais enregistré à Dijon avec Jean Tellet en avril 2011, alors qu'il venait présenter son dernier roman, Charlie IX, paru aux éditions Julliard. Il est bien sûr question de l'histoire de France et du roi Charles IX, bien connu pour ses comportements étranges, voire la démence qui le caractérisait. Jean Tellet.
Il était toujours entouré de chiens, et alors il pouvait être par exemple en train de parler de la Saint-Barthélemy avec un ambassadeur, et tout ça, il parlait tout ça en caressant la tête de son lévrier, et tout d'un coup il sortait un poignard et pouf, il tranchait la gorge du chien. Alors le chien forcément il tombait par terre, et lui se relevait complètement catastrophé en disant « Oh là là, que c'est dommage aussi ça, ce chien était si gentil qu'il aurait fallu l'épargner. » Sauf qu'il venait de le tuer. Et puis
en faisant une belle paire de gants d'ailleurs.
Et voilà, après il en faisait des gants. Et puis il s'amusait aussi à casser des coups d'alouette. Ça le détendait. Alors dans son bureau, il y avait plein de petites cages, une cage à oiseaux comme ça, dorée et tout, avec des petites alouettes dedans. Alors lui prenait une alouette et tout en parlant, paf, entre trois doigts, clac, il cassait le coup d'une alouette et puis après il en prenait une autre.
Enfin, il est capable de dépire par Paris, malheureusement.
Quand il revenait de la chasse, s'il était bredouille et qu'il passait près d'une ferme, il rentrait dans la cour de la ferme et là, il tuait tous les animaux, mais tout. Les poules, les canards, les
agneaux,
les ânes, les vaches, tout. Et après, il était complètement effondré. Il ordonnait à son grand veneur, le duc d'Aumale, de rembourser, d'indemniser les paysans. Mais voilà, il était pris après dans une folie du sang dont il ne pouvait plus se défaire, à tel point que, comme je racontais tout à l'heure, il s'est mis lui-même à ruisseler de sang. Et c'est comme s'il était devenu un homme stigmate de tout son corps. Oui. C'est vraiment un... Je trouve que c'est un personnage tellement romanesque que moi je suis surpris que personne ait fait de roman sur lui. On le voit dans La Reine Margot, et moi quand j'avais vu le film de Chéreau, c'était il y a longtemps, bien avant que je sache qu'un jour j'allais faire un livre sur Charles IX, mais quand j'étais arrivé à la fin du film, je m'étais dit moi en fait que le personnage le plus intéressant n'était pas le personnage joué par Adjani, la Reine Margot, mais le personnage joué par Anglade. J'avais déjà senti que c'était Charles IX qui était le personnage le plus intéressant de cette histoire.
Charles IX a tout de même une vie sentimentale. Il a une épouse, alors qu'il ne parle pas français.
Ouais. Alors, ça fait partie aussi de la compréhension, parce que lui n'a jamais pu parler à son épouse. Elle parlait pas français, et lui parlait pas allemand. Et comme c'était Elisabeth d'Autriche, donc il y avait une traductrice qui s'appelait la comtesse d'Arenberg, qui était toujours là
dans les situations les plus intimes.
Mais oui. Ah ben oui.
Puisque là,
même dans les scènes d'amour,
elle
s'asseyait sur une chaise, dos au lit. Et puis elle devait traduire tout ce qu'il se disait.
Elle est gênée parce qu'elle dit à Charlie IX, Je la cite. « Si vous pouviez, Majesté, lors des ébats, ne pas trop prononcer de gros mots comme « Ah, bougresse, tiens, prends ça, Danton, et ouais. point de suspension. »
Ouais, ouais.
Vous allez vous faire excommunier, Gentelet.
C'est bien possible.
C'est peut-être déjà fait.
Oui, sûrement. Et ceci dit, je m'en fous. Mais alors, vous n'avez même pas idée.
Alors, à côté de la vie sentimentale, vous avez bien dit que Charlie IX a effectivement cette. Il a une maîtresse, Marie Touchet. Alors là aussi, c'est un grand baiser. Pardonnez-moi. Ouais, ouais. Apparemment, s'il n'a pas joué trois fois.
Mais exactement, il disait qu'il ne quittait jamais Marie Touchet sans en avoir joué trois fois. Ce qui est une preuve de bonne santé, quoi. Enfin, d'énergie en tout cas et des gens comme Ambroise Paré tout ça parce qu'ils se jetaient ils se jetaient dans sa maîtresse comme dans une autre voie de mort, c'est-à-dire c'était comme une façon de se détruire tellement il avait une activité d'amour sexuel frénétique avec Marie Touchet. Et comme les I et les J à l'époque s'écrivaient exactement comme pareil comme des I, il avait trouvé que l'anagramme de Marie Touchet, c'était « Je charme tout ». Et donc, voilà.
Et Marie Touchet dit à un moment à Charlie IX, elle est devant la braguette de Charlie IX, la braguette ouverte, et elle s'étonne. « Qu'est ceci ? Un limaçon qui sèche dans sa coque ?»« Ah, mais non, ces fleurs qui poussent et sèves qui montent. » Il y a une vraie paillardise.
Ouais, ouais, ouais.
Paillardise, crudité des propos. Et c'est surprenant d'ailleurs, parce qu'il y a ce contraste entre la majesté, la figure royale, et cette vulgarité, ce langage de Chartier.
Ils étaient comme ça. C'était des bouchers rois. Hein. C'était des mecs complètement fous. Les Valois. Et puis là, on arrivait à la fin des Valois, parce que Charles IX n'a pas eu d'enfant, de fils. Il a eu une fille avec sa femme, mais pas de fils. Et d'ailleurs, ça a été le premier roi de France à être content de ne pas avoir de fils, parce qu'il disait si j'avais eu un fils il y aurait eu un problème, parce qu'un héritier du trône doit connaître son arbre généalogique et les au fait de ses aïeux. Alors moi, quand mon fils m'aurait dit, et vous, qu'avez-vous accompli comme exploit, père, qu'est-ce que je lui aurais répondu? La Saint-Barthélemy. Ça va très bien comme ça, moi je suis content d'avoir une fille.
Et même en matière de poésie, Charles IX n'est pas certain de laisser une trace dans l'histoire littéraire, parce que vous ressuscitez, vous décrivez aux côtés de Charles IX, les poètes de la Pléiade, et notamment Ronsard,
voilà.
Qui est complètement sourd. C'est vrai que c'est l'hymne à la surdité, ça faisait partie aussi de la définition du poète.
Il passe son temps à dire comment.
Alors ce qui est amusant, c'est lorsque Charles IX exige de Pierre de Ronsard qu'il rédige donc une épopée à la gloire de Francus, donc la Franciade, en décasyllabes et non en alexandrin. Et Ronsard qui dit, alors là Gentelet, vous y allez franchement un peu fort, Ronsard dit, oh putain, et en plus le sujet, le mauvais élève tel que c'est le genre de réplique qu'un élève pourrait prononcer dans une classe de bac de philosophie.
Mais Ronsard était absolument désolé de cette idée du roi qui lui ordonnait donc d'écrire la Franciade, et ça devait un très très long poème, genre 25 livres et tout, et avec un sujet qui amusait pas du tout Ronsard, et surtout il fallait l'écrire en vers de 10 pieds, et Ronsard passait son temps à dire à Charles IX, ça ne va pas avec la langue française 10 pieds, ce qui va c'est 12 pieds, ça s'appelle un alexandrin, et Charles IX disait, les Grecs l'ont bien fait en 10 pieds, il dit, bah, bon, ça va, Ronsard disait, ça va peut-être pour les Grecs, mais ça va pas pour la France, et Charles IX disait, c'est moi le roi de France, vous écrirez ça en 10 pieds, et quand Charles IX était sur le point de mourir, il a demandé à Ronsard, et dit, Ronsard, est-ce que après ma mort vous allez continuer la Franciade? Et Ronsard a répondu non. Et là, Charles IX a dit à Ronsard, décidément, hein, Ronsard, même en matière de poésie, je ne laisserai pas un grand souvenir.
Gentelet, enregistré à notre micro en avril 2011 à Dijon, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne, il était venu présenter Charlie IX, un roman aujourd'hui disponible en poche et qui était initialement paru aux éditions Julliard. Hommage que nous rendons en cette fin de matinée au romancier qui nous a quittés le 18 octobre dernier et que nous retrouvons d'ici quelques minutes après une nouvelle virgule musicale. Je vous rappelle que c'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion.
Prenez-le dans le miroir, je me regarde.
sur le sofa bleu et noir. Y avait pas l'ombre dans les arbres. T'étais mon cool gang. Rien que toi et moi, Dieu, que c'était cool, ben. Oh, en mauvais. Pas de contrepartie. On s'aimait comme un chien et chat.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
D'ici quelques secondes, nous allons retrouver Jean Tellet pour évoquer le roi Charles IX, dont il brosse le portrait dans son roman historique Charlie IX, paru en 2011 aux éditions Julliard. On sait d'ailleurs que si Charles IX a été profondément marqué par les massacres de la Saint-Barthélemy, il ne buvait pas d'alcool. Mais en revanche, Charlie IX était particulièrement original puisqu'il boit l'eau des fleurs. Il boit de l'eau avec des fleurs à l'intérieur. Jean Tellet.
Il ne buvait pas du tout d'alcool, heureusement, parce qu'il aurait manqué plus que ça qu'il soit bourré. Déjà, il faisait assez de conneries comme ça. Mais il ne buvait que de l'eau avec des fleurs dedans. Et d'ailleurs, ça a donné un gros problème parce qu'à un moment, il était tellement désemparé avec la France qu'il ne savait plus quoi faire pour, alors que les gens étaient dans une misère, mais inimaginable. Qu'un jour il a décidé qu'en fait tous les 1er mai ses soldats iraient notamment dans Paris distribuer un brin de muguet aux gens comme porte-bonheur.
Mais c'est autant,
ah oui, enfin,
c'est vrai.
Ah oui, oui. Et alors les gens quand on leur disait tenez c'est de la part du roi, ils disaient bah pour une fois qu'il nous file à bouffer celui-là, ils prenaient le muguet, ils disaient donne ça soldat et ils balançaient ça dans la soupe. Sauf qu'il y a un énorme problème, c'est que le muguet est une plante absolument toxique. C'est proche de la digitale. Tout dans le muguet est mortel. Clochettes, feuilles, tiges, tout. Et alors les gens, quand ils ont foutu ça dans la soupe, bah, ils sont morts en masse aussi. C'est à lui qu'on doit le jour de l'an.
C'est lui qui a imposé
janvier,
le jour de l'an au 1er janvier.
Janvier. Oui. Et comme personne comprenait, tout le monde trouvait que cette idée était complètement idiote de faire démarrer, alors qu'avant, le jour de l'an, ça variait selon les provinces en France. Mais c'était autour des premiers jours d'avril. Mais alors, il y avait un problème. Quand on donnait un rendez-vous à quelqu'un pour le jour de l'an, on savait jamais quand c'était. Donc lui a décidé d'unifier ça et il a décidé que ça serait le 1er janvier. Et personne comprenait cette idée. Tout le monde trouvait ça absolument idiot. Disant, mais pourquoi faire commencer l'année au début de l'hiver? Et normalement, c'est quand même pas simple, mais pas compliqué comme décision de se dire que c'est quand arrive le printemps, les premières fleurettes, que démarre l'année. Et bon, lui a insisté, et puis ça a été le 1er janvier. Et alors du coup, les réfractaires, tous les gens qui étaient mécontents en réaction, ont décidé que le 1er avril, on annoncerait que des nouvelles idiotes et qu'on accrocherait un poisson dans le dos des gens.
Un peu pourri, hein, un peu pourri.
Voilà,
aussi, hein.
Un poisson, parce que le poisson est dernier signe du zodiaque et qu'avec Charles IX, l'année se terminait, commençait avant le dernier signe du zodiaque. Donc voilà, donc on lui doit le 1er janvier, le poisson d'avril,
le brin de muguet
et trois fois rien, la Saint-Barthélemy.
Et les vêtements, alors beaucoup de crevés, alors
oui,
aussi.
Voilà. Oui, alors les crevés.
Les crevés dans le tissu.
C'était la mode, c'était dans les vêtements de faire des longues entailles et par exemple, à l'équivalent d'une veste, pour faire bouffer le tissu de la chemise qui était en dessous et tout. Et c'est quand même, et on appelait ça des crevés. Et ça a été inventé, c'est quand même marrant que ça a été inventé au moment du règne d'un roi aussi sanguinaire qui a fait autant crever de gens que même les vêtements sont décorés de crevés.
Alors, si Charles IX est au bord de la démence et de la folie, sa sœur, Marguerite de Valois, qui est souvent en accoutrement gothique dans les couloirs du Louvre, avec un bocal d'alcool dans lequel flotte une tête.
La tête de Joseph Lamolle, et qui était son amant. Mais ils étaient tous barjots dans cette famille. Et le futur Henri III, Henri d'Anjou aussi, était bien frappé. C'était quand même une famille de dingue.
Oui, parce qu'effectivement, Charlie IX qui fait des chasses dans les couloirs du Louvre.
Ah oui, il chassait le cerf dans le Louvre. Et pas dans le jardin des Tuileries, hein, dans le Louvre. Et,
dans les couloirs, et, hein, voilà, dans les salles, dans les couloirs.
Oui, oui, oui. Et lui, à cheval, cavalait dans le Louvre après un cerf qui explosait les portes et tout à grand coup de tête. Et il chassait le lapin aussi, parce que le roi était tellement. Le pape Grégoire XIII était tellement content de la Saint-Barthélemy qu'il avait offert à Charles IX une épée bénie. Et quand il faisait trop mauvais temps pour aller à la chasse, Charles IX faisait lâcher des lapins dans le Louvre et cavalait après les lapins pour essayer de les buter à grands coups d'épée bénite offerte par le pape. Et aussi un truc que les gens croient souvent que j'ai inventé, c'est absolument vrai, c'est qu'il se prenait même pour un cheval. Il se faisait mettre une selle sur le dos et il cavalait à quatre pattes dans le Louvre en faisant cataclope pour faire le bruit des sabots. Et il n'allait pas bien, quoi.
Donc c'est, et vous utilisez, il est mi-ange, mi-dément.
Ouais, hein, ouais.
Bon calombre. Ouais, ouais. Jean Tellet, est-ce que je peux vous demander de nous lire c'est le chapitre 44, c'est le chapitre où se passe la dissection du corps.
D'accord.
De Charlie IX.
D'une main sûre et sans trembler, la lame du scalpel d'Ambroise Paré tranche profondément, de la gorge jusqu'au bas du ventre, la peau et la chair, comme on ouvre une fermeture éclair, faisant apparaître au jour tous les viscères du roi de France. Le corps est allongé à plat dos sur une table en marbre couverte d'un linceul. Paré tourne autour du meuble, embarrassé par la présence de tant de médecins, magistrats et gentilshommes agglutinés qui le gênent dans ses déplacements et le font râler. « Mais poussez-vous donc ! Que de monde pour cette corporis humani dissectio ! C'est la première fois dans l'histoire de France qu'on pratique l'autopsie d'un roi !» lui rappelle un haut magistrat dont la présence est obligée. La reine-mère a donc consenti à l'ouverture de son fils bien-aimé pour faire taire les rumeurs d'empoisonnement dont on la soupçonne. Ambroise sourit d'une des commissures de ses lèvres. Ouverture en présence de gens tout de même soigneusement sélectionnés par elle, qui, craignant tant qu'un attentat contre la régente libère le trône, s'imagine que des protestants, guisards ou malcontents, pourraient mettre de la poudre sous son lit pour le faire exploser. Hier soir, à genoux, elle a elle-même vérifié sans rien trouver. Et si, plutôt que de commenter, vous faisiez votre travail, tripier par paillot, suggère Mazille, premier médecin très catholique. Quant à vous, secrétaire, notez. Celui qui est chargé de la rédaction du rapport d'autopsie commence à lire à voix haute ce qu'il a déjà écrit. En l'après-dîner du lundi 31 mai, le corps du feu roi fut ouvert au dit lieu de Vincennes pour voir et cognastre quelle peut être la cause de la mort afin d'en faire un rapport à vrai qui sera signé. Ambroise, en soutane à col plat sans manches, plonge ses avant-bras dans la poitrine du décédé d'où il relève des bas morceaux qu'il renifle puis décrit scrupuleusement alors que le secrétaire trace d'une plume trempée dans l'encre. Parenchyme du foie desséché, exsangue et noirâtre aux extrémités des lobes qui regardent les parties camuses. Vous rayerez noirâtre, commande le premier médecin à l'employé d'écriture. La vésicule biliaire, reprend le chirurgien, est ramassée sur elle-même et un peu noire. Qu'on n'écrive pas noir, dit Mazille. L'encre, aux ordres, coule sur le papier. Rate en bon état, aucune altération de l'estomac et continuité normale avec le pylore, les deux reins intacts ainsi que la vessie et les uretères. Mais alors de quoi est-il mort ? S'impatiente un gentilhomme alors que Paris en arrive à omentum, plus fin que la normale et en partie rompu, cœur flasque et comme desséché, toute l'humeur aqueuse habituellement contenue dans le péricarde ayant disparu.
Merci, Jean-Claude. Mais finalement, vous êtes un peu l'Ambroise Paré, vous aussi, à votre manière. Vous faites un peu l'autopsie littéraire, ouais, du règne de ce Charlie IX.
Exactement. Mais ça tombe bien parce que moi, il me plaît beaucoup, Ambroise Paré. Je trouve très sympa. Ça. Ambroise Paré, qui est un truc marrant d'ailleurs.
Qui a beaucoup de chance quand même d'être le chirurgien.
Oui, mais
du roi.
Ambroise Paré qui préparait un livre sur les animaux étranges. Et un jour, Charles IX est arrivé dans son bureau et il l'a vu en train de dessiner une autruche. Et Charles IX, elle n'avait jamais vu d'autruche. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est un oiseau. Et l'autre lui dit oui. Puis il lui dit, et en plus, c'est un oiseau qui a une drôle de réputation, qui a la réputation de se cacher la tête dans le sable pour ne pas avoir à affronter les problèmes. Et quand Charles IX allait à la chasse, et c'est vrai, et qu'il venait par exemple de tuer un cerf et qu'il venait d'ouvrir le ventre pour retirer les boyaux pour filer à bouffer ça au chien,
la curée,
si un émissaire arrivait et disait « Sire, sire, il y a une dépêche urgente à signer, il y a une décision qu'il faut prendre et tout », lui se foutait, Charles IX, la tête dans la carcasse du cerf et gueulait « Je suis pas là, je suis pas là ». Il faisait l'autruche.
Jean Tellet, à l'instant, à notre micro, à qui nous rendons hommage, lui qui nous a quittés dans sa 69e année le 18 octobre dernier. Merci de vous être associé à ce souvenir autour d'un romancier qui a laissé une œuvre romanesque originale, historique, pleine de frissons, pleine d'étrangeté aussi. Et bien évidemment, on peut relire toute son œuvre romanesque qui est très largement disponible en livre de poche. Rainbow pour Rimbaud, Darling, Le magasin des suicides, bien sûr. Mangez-le si vous voulez. On peut aussi mentionner Le Montespan, qui a d'ailleurs connu un très très grand succès, sans compter toutes les adaptations des romans de Jean Tellet au théâtre. Je rappelle que Jean Tellet était le compagnon de l'actrice Miu Miu dans La Vie et que l'entretien que vous avez entendu aujourd'hui avait été diffusé en mai 2011 après qu'il a été enregistré donc à Dijon, où j'avais eu le plaisir de rencontrer Jean Tellet, qui était alors l'invité du Club des écrivains de Bourgogne au Grand Hôtel de la Cloche, place d'Arcy, à Dijon. Avant de nous séparer, je voudrais juste mettre un petit coup de projecteur sur un trimestriel que j'aime particulièrement, c'est Pays de Bourgogne, qui propose d'ailleurs dans son numéro du mois d'octobre, le numéro 267, un intéressant dossier sur Colette et Levin, signée de Claude Chapuis, ainsi qu'un article sur la cité de la gastronomie à Dijon, disponible en kiosque et en librairie Pays de Bourgogne, qui fêtera en 2023 son 70e anniversaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion, pour un entretien avec Lionel Duroy autour de son dernier roman intitulé « Disparaître ». Et si vous avez manqué cette émission, comme d'habitude, vous vous dirigez via Internet sur le site d'archives de l'émission yannickpetit.fr. Un très grand merci à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain.